Chers auditeurs, vous allez entendre un cours d'histoire du Canada donné sous les auspices de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal par le chanoine Lionel Groulx, président de l'Institut d'histoire de l'Amérique française. Monsieur le chanoine.
Mesdames, messieurs, je salue cordialement mes fidèles auditeurs et je commence tout de suite cette première leçon de la troisième période du régime britannique, le régime parlementaire 1791-1848. Au début de ce chapitre, une question se pose à l'historien, celle-là même qu'il se posait au lendemain de l'acte de Québec. Le régime parlementaire a été octroyé au Nouveau-Brunswick en 1786, au Deux-Canada en 1791. Il parut marquer une étape considérable dans l'émancipation des colonies. La division en deux provinces de l'ancien gouvernement de Québec apportait au Bas-Canada des avantages d'une plus haute qualité. Il se voyait soustrait à un périlleux dualisme ethnique confirmé dans ses aspirations d'État national. Mais alors, comment expliquer qu'après 1791 comme après 1774, une ère d'agitation de près d'un demi-siècle ait pu s'ouvrir, et non seulement cette fois, dans ce qui est devenu le Bas-Canada, mais avec une effervescence diverse dans toutes les provinces anglaises de l'Amérique du Nord. Nouvelle étape dans l'évolution constitutionnelle des colonies, l'événement de 1791 mettait fin, croyait-on, au régime absolu de la Crown Colony. Par essence, le régime parlementaire implique le règne démocratique de la majorité. Le jeu normal des institutions, selon le mode constitutionnel, ferait passer la prépondérance politique, pouvait-on croire, des agents ou délégués de la métropole, aux élus du peuple, c'est-à-dire dans le Bas-Canada, à la majorité française de la province. Des paroles, des écrits officiels et solennels n'ont-ils pas accrédité cet espoir? Si l'on tient compte en outre de la promesse faite au Bas-Canada de lui conserver ses lois françaises aussi longtemps que non amendées ou abrogées par le nouvel organisme politique, et si l'on y ajoute la répétition dans l'acte de 1791 des articles et déclarations de 1774 au sujet de la liberté religieuse, tout permettait de voir en la nouvelle Constitution une politique hautement libérale, ce qui veut dire, et sans équivoque possible, une consécration renouvelée du fait français au Canada et même un acheminement de la nationalité canadienne vers la personnalité politique. Toutefois, des esprits attentifs au synchronisme historique se seraient-ils défendus d'inquiétude? Reportons-nous à la genèse du régime parlementaire dans les provinces anglaises de l'Amérique du Nord après le traité de 1783. Quelles influences ont alors pesé sur l'esprit du législateur impérial? Un topic revient comme une hantise dans les discours des hommes d'État anglais de l'époque. Le démon de la démocratie, premier et grand responsable de la perte des colonies américaines. Le fruit funeste aurait mûri dans les parlements coloniaux, trop dépourvus du frein constitutionnel de chambres aristocratiques, comme du prestige de gouverneurs indépendants des chambres populaires et livrés en conséquence à la pire démagogie. Fox, Whig exalté, se rencontre sur ce point avec le second Pitt. En second lieu, notons-le bien, l'ère parlementaire débute au Canada dans la pleine effervescence de la Révolution française. Les années 1790-91 sont celles précisément où, selon le mot de Veuillot, l'orgie des philosophes va tourner à l'orgie des brigands. Les événements de France ont pu ne pas influer sur le texte même des constitutions canadiennes, arrêtées dès 1789. N'ont-ils agi en rien sur l'esprit des politiques et sur la mise en opération du nouveau régime? En Angleterre, l'opinion a d'abord salué avec enthousiasme la prise de la Bastille. Les intellectuels ont battu des mains par affinités idéologiques avec les coryphées de la Révolution d'Outre-Manche. Les politiques tels que Pitt, dans l'espoir que la France sortirait de l'aventure à jamais ébranlée, ont aidé le mouvement de toutes les forces de la cavalerie de Saint-Georges. Devant la redoutable contagion du virus révolutionnaire, L'opinion anglaise a bientôt fait de se ressaisir. Les premiers avertissements lui sont venus d'Edmund Burke, qui publiait en 1790 ses Reflections on the Revolution of France. Or, la Constitution canadienne a été sanctionnée le 10 juin 1791, mais le texte en a été discuté en avril et mai 1791. C'est au cours de ce débat, le 6 mai 1791, que Burke a crié à ses compatriotes « Fuyez la Révolution française !» Et c'est à ce même moment que, dans une scène plus ou moins mélodramatique, l'orateur a consommé sa rupture avec Fox. C'est encore le 20 mai 1791, 3 semaines avant la sanction de la Constitution canadienne, que le gouvernement britannique édicte ses premières rigueurs contre les écrits séditieux, suspend l'habeas corpus et décide de surseoir à la réforme parlementaire. Dans la mesure où la France se faisait révolutionnaire, constate Albert Sorel, l'Angleterre se fit conservatrice. Quel autre est puissant motif de se précautionner contre le démon de la démocratie au Canada? Mais allons à ce qui pourra bien être le nœud du problème. Où en est, en ces années troubles, l'évolution constitutionnelle en Angleterre et quelle doctrine y prévaut? Impossible de s'expliquer le long conflit dans les provinces de l'Amérique anglaise, sinon de saisir à la source même ce qui a pu déterminer et gauchir leurs institutions politiques. Tant d'historiens canadiens ont fait grief, par exemple, aux parlementaires coloniaux d'avoir prétendu devancer la métropole dans sa propre évolution. Avant toute chose, n'allons pas commettre l'erreur de nous représenter cette évolution sous l'aspect d'une ligne persévérément ascendante. L'image serait plus juste d'un balancier qui ferait osciller le pouvoir entre les communes et le roi, et par le roi, entendons le souverain et ses amis de l'oligarchie. Au XVIIe siècle, un premier Stuart paie de sa tête l'abus de la prérogative royale, un second la paie de son trône. La Révolution et le Bill of Rights de 1688 font pencher le balancier du côté des communes, triomphe de la doctrine des Whigs et de leur idéal politique. Les deux premiers hanovriens s'entendent peu en politique et en langue anglaise. Le gain des communes se maintient jusqu'à la mort de Robert Walpole. Avec George III, de naissance et d'éducation anglaise celui-ci, c'est le retour à la prépondérance royale. Le développement extraordinaire de la richesse nationale a fait surgir une plutocratie qui, pour assurer ses privilèges, se serre autour du roi. La voici en train de fausser, comme jamais il ne l'a été, le jeu des institutions britanniques. Presque toute différence essentielle a disparu entre les deux chambres. 71 pairs disposent de 176 sièges à la Chambre des communes, 91 grands propriétaires, sans aide de la Chambre des lords, sont en état de nommer ou faire élire pour leur part 139 autres députés. Ainsi, 270 grands électeurs disposent de 306 sièges, c'est-à-dire de la majorité aux communes. Oligarchie omnipotente qui tient les rênes du pouvoir. Le corps à corps gigantesque qui, de la Révolution française jusqu'à la fin de l'Empire napoléonien, va faire s'affronter la France et l'Angleterre, entraîne une autre éclipse des libertés parlementaires. Cette fois, c'est toute la nation qui se serre contre le roi et contre le ministère qui a pour chef le second pitre. Retenons donc ce fait d'importance que les constitutions octroyées aux provinces anglaises d'outre-mer furent mises en opération à une époque de régression de la liberté dans le royaume. C'est aussi l'époque, nous y avons assez insisté, où les hommes d'État britanniques, pour renforcer la structure de l'Empire, s'appliquent à réduire le pacte colonial. Et l'on se rappelle au nom de quelles lois ou exigences vitales un pays surindustrialisé comme la Grande-Bretagne devait s'accrocher, plus que toute autre métropole, au principe de l'autarchie économique ou du self-supporting empire. D'où la haute main sur la politique des colonies, destinée à demeurer par vocation absolue, fournisseuse de produits agricoles et de matières premières, et déversoir toujours ouvert à l'industrie britannique, D'où encore, et pour la même raison, la version jalouse de l'Angleterre pour toute velléité d'émancipation coloniale qui risquerait de pratiquer une brèche dans son économie. À chacun maintenant de mesurer les redoutables influences qui ont entouré l'avènement de l'ère parlementaire au Canada. Quel miracle eût pu faire sortir de là quelques progrès de la liberté coloniale. Le nouveau régime se présente hérissé d'aspects ou d'antagonismes on ne peut plus inquiétants. Un gouvernement colonial resté en étroite dépendance de la métropole, un élément démocratique plus évolué qu'en Angleterre, mais freiné par une oligarchie omnipotente. En d'autres termes, un régime qu'on dit parlementaire et qui en a l'apparence, mais combiné avec une centralisation impériale poussée aussi loin qu'au temps de la grande colonie. Voici d'ailleurs les rouages. Au sommet, un gouverneur pour toutes les provinces anglaises, suppléé hors du Bas-Canada par des lieutenants-gouverneurs, gouverneurs uniques, réunissant dans ses mains pouvoirs civils et militaires, véritable vice-roi qui règne et gouverne, libre de consulter ou de ne pas consulter son conseil exécutif, responsable, bien entendu, au seul gouvernement métropolitain, et d'autre part, fortement dépendant de ce même gouvernement, limité dans son initiative, dans la sanction des lois provinciales, obligé de compter avec le droit de réserve du gouvernement métropolitain en matière de finances, d'office, de justice, dans la nomination des fonctionnaires, engagé par serment spécial et sous peine de destitution à la surveillance des lois de commerce dans les colonies. En face de ce proconsul, et trop souvent se comportant comme tel, des chambres électives aussi dissemblables que possible des communes anglaises, chambres profondément démocratiques en leur composition comme en leur esprit, élues celles-ci par un suffrage presque universel, en des pays de petits propriétaires fonciers et de sens électoral largement populaire. Entre ces deux, le gouvernement et la chambre élective, se trouvera-t-il au moins quelques pouvoirs modérateurs, un instrument de liaison pour articuler, agencer en ses parties la machine politique, nullement, mais deux conseils, l'un exécutif, l'autre législatif, les deux hors des prises du peuple et de la chambre, recrutés par le gouverneur et par Londres, les deux alliés au surplus du gouverneur et placés plat de lui pour l'épauler dans l'exercice de son pouvoir autocratique. Car c'est bien là l'étrange esprit de ce régime parlementaire que l'on y songe moins à détendre l'absolutisme d'hier qu'à le fortifier. Le nouveau régime est entré en vigueur le 26 décembre 1791. Si l'on se rappelle des espoirs de 1791, espoirs de liberté politique et d'épanouissement national dans le Bas-Canada, quel redoutable malentendu nous apparaît au fond des nouvelles institutions. Une jeunesse existe alors au Canada français, qui a lu les philosophes du 18e siècle et qui suit avec un enthousiasme naïf et mystique la Révolution de France. La Constitution apparemment libérale de 91 lui parut entrer dans ce contexte historique. Absolument emballée, cette jeunesse décide de fêter le grandiose événement. Québec allume ses lanternes. À Montréal comme dans la capitale, les hommes des deux races demandent à festoyer fraternellement. Et pour se donner l'illusion d'une prise de quelques bastilles, en des transports délirants, nous dit la Gazette de Québec, on boit des toasts où l'on prône l'abolition de la tenure seigneuriale, les gloires de la Révolution de France, de la Révolution de Pologne, enfin l'avènement de la vraie liberté dans tout l'univers jusqu'à la baie du Tsun. Ces esprits livresques ont cru à la liberté, telle qu'entrevue dans les utopies des encyclopédistes. La réalité va leur offrir un dangereux mélange de dictature et de démocratie. Le gouvernement métropolitain allait tenter cette chimère de faire collaborer un élément trop populaire avec un élément trop oligarchique, un exécutif plus autocrate qu'en Angleterre, avec une chambre élective plus démocratique que les communes anglaises. Ou si l'on veut encore, on s'acharnerait à fonder un régime parlementaire sur le règne de la minorité. L'avenir est trop facile à prévoir. On se proposait de brider le démon de la démocratie. On n'allait que plus sûrement le déchaîner. Fox avait dit, « Je suis convaincu que le seul moyen de conserver les colonies lointaines et de leur permettre de se gouverner elles-mêmes
Pendant plus d'un demi-siècle, les autorités britanniques tenteraient d'imposer aux provinces de l'Amérique du Nord le régime rétrograde qui avait poussé les 13 colonies à l'insurrection.
Vous venez d'entendre un cours d'histoire du Canada donné par le chanoine Lionel Grew. Un autre cours sera donné la semaine prochaine à la même heure et au même poste.